La question de Eyal.
Alors, quand on est dans un shidour, comment on sait si la femme en face de nous, elle est mariable, on peut se marier avec elle? Alors, c'est quoi les critères d'une femme pour savoir qu'en face de nous, si on peut se marier avec elle?
Et ça, ça, quoi tu rajoutes?
Comment on fait pour savoir si on est réellement objectif avec soi-même? Et si on n'est pas complètement amadoué par une certaine amabilité, une certaine beauté, quelque chose comme ça. Quoi.
Mais on est amadoué. Tof. Le critère du choix du partenaire en ce qui concerne la femme. D'abord, une femme doit être gentille. Parce que l'homme, il part tous les jours au travail, à l'extérieur, à la jungle. Il a besoin d'un foyer. Et la gentillesse, c'est très important. C'est important pour lui. Elle doit, on appelle ça avoir des bonnes midot. Pardon ? Quand vérifier la gentillesse ? Donc ta question, comment vérifier ? Quand je suis tout le monde est gentil, gna gna gna. Néanmoins, la personne, on ne peut pas jouer un jeu, chacun joue un jeu. Mais, on va dire, entre ce que tu es et le jeu que tu fais, il y a une certaine distance qui ne peut pas être énorme. Tu ne peux pas jouer ce que tu n'es pas complètement. Donc, ça c'est un. Secondo, la personne ne joue pas trop parce qu'elle comprend bien que si elle joue un jeu de ce qu'elle n'est pas, ça va lui retomber dessus. C'est clair que dans le chidour, elle arrive en retard au rendez-vous une demi-heure, tu ne diras rien. Une fois que tu seras marié, tu deviens fou. Tu lui fais une scène de ménage terrible. C'est clair. Elle dit, je ne comprends pas. Et pourtant, au premier chidour, tous les chidours, comme je suis arrivé une demi-heure en train de faire un grand sourire. Et vu qu'on est marié, tu me fais une grande scène de ménage. Mais tout le monde comprend, s'il n'est pas trop bête, que les choses changent. Et qu'on est beaucoup plus cool, on est beaucoup plus patient et sympathique au chidour. Mais tu peux quand même saisir le regard qu'elle a sur le monde. Comment elle juge les gens? Est-ce qu'elle est extrêmement acerbe? Elle descend autour d'elle tout ce qu'il y a? Elle a des réactions très... Tu comprends? Ça se sent. Le chidour doit se faire dans une ambiance extrêmement sympathique, mais c'est clair qu'on a nos antennes qui sont sorties avec les paraboliques et on voit tout. Tu vois tout. Après un chidour, tu t'assieds, tu réfléchis bien, tu regardes, tu ressasses les choses, tu revois. C'est clair qu'il y a ici une analyse des choses et on ne peut pas trop jouer. Et une personne qui est gentille, ça se voit. Une personne qui est gentille, ça se voit relativement vite. Il y a une douceur dans le ton, il y a... Ça, on appelle ça les bonnes midotes. Avec la gentillesse, viennent beaucoup de choses. Elle est pas trop colérique, elle aime rendre service, elle est responsable d'habitude, ça va ensemble. Et après, il faut Yiret Shamayim. Yiret Shamayim, ça signifie, si nous désirons avancer dans le service de Dieu, on doit être quelqu'un, hein? Épaulé. D'accord, secondé par quelqu'un qui est capable de... Alors, il faut qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est très conseillé. Parce que les problèmes de différence au niveau de la pratique, au niveau de la Yiret Shamayim, sont une cause éternelle de problèmes aigus. Pourquoi? Parce que si j'aime les spaghettis, elle aura toujours les spaghettis, je peux me travailler et commencer à me dire, bon, ben, je suis condamné à manger des spaghettis ratés. C'est pas si grave. Elle aime aller chez ses parents. Moi, je ne vais pas voir la figure du beau-papa ni de la belle-mère. Je peux m'écraser un Shabbat entier et supporter ça. Je le ferai pour elle. Elle aime la mer, j'aime la montagne. On s'arrangera. Elle aime les robes vertes et j'aime les robes bleues. J'accepte le vert. D'accord? Elle veut son plafond noir. Moi, j'aime blanc. J'accepte aussi. Tout peut passer. Mais elle me dit maintenant, faisons un truc qui est contraire à la Torah. Moi, je veux bien m'écraser sur tout, mais je ne veux pas écraser la Torah. d'où source de conflits déjà grandes. Bien que la réponse qu'on donne dans les cas où on est déjà bédiavad, ou dans beaucoup de couples, ça arrive, on explique que ce n'est pas parce qu'un fait tchouva que l'autre doit péter un câble. J'avais un voisin, Baal Tchouva, il fait Shabbat, sa femme pas, elle passe l'aspirateur entre ses pieds pendant Shabbat. Et il n'y avait aucun problème là-dessus. Et ça ne doit pas déranger. Pourquoi ça ne doit pas déranger? Tu fais ton Shabbat, tu fais ton aspirateur, où est le problème? Toi, tu fais ton Shabbat, tu prends ta Gemara, elle regarde la télévision. On doit être suffisamment ouvert d'esprit et tolérant qu'elle va son... On n'est pas, on n'est pas associé en enfer. Chacun son enfer comme il faut. Hein. C'est pas... Elle est avec nous là-haut au paradis, mais pas en enfer. On m'a posé la question. Alors, j'ai répondu comme ça, j'ai répondu que c'est... C'est quoi? Tu es en position dans le ciel où tu es en face, tu jouis de la lumière divine, d'accord? Attends, tes péchés ou ton degré de service divin, il fait que tu auras plus ou moins de proximité. Alors les gens comprennent comment je peux être moi très proche de Dieu, ma femme à 40 km ou le contraire, d'accord? Non, les deux sont au même endroit. Dans ta vision, elle est claire ou elle est voilée, c'est tout. Tu as une perception moins grande de Dieu, tu profites moins de lumière. Comme t'as un beau film, et toi t'éclates de rire, hein, puis ta femme, elle a... Qu'est-ce qu'il y a qui raconte? Moi, je peux pas, tu vois pas, c'est... Dommage. Je t'avais dit de pas manger ce truc-là, d'accord? Ou dans l'autre sens, hein, une minute. Donc, on n'est pas dans le même enfer, ni le même paradis. Bien qu'on est ensemble là-haut, on est ensemble, mais chacun, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, c'est clair. Donc, j'ai pas maintenant, à part la mitzvah, que quand je vois un juif qui se comporte mal, j'ai une mitzvah de faire une tochecha, d'essayer de le corriger. Oui, mais on doit corriger avec beaucoup de douceur, sans animosité, sans agressivité intérieure, sans que ça m'énerve, d'accord? Comme je vois monsieur lambda dans la rue qui fait une chose pas bien, je suis censé lui parler, lui dire c'est pas bien ce que tu fais, ma femme aussi. Et vu que je fais pas avec l'autre, je dois pas faire non plus trop avec ma femme. Donc. Il n'y a aucun problème, les gens doivent bien comprendre cela, il n'y a aucun problème que ma femme fasse ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle veut, elle mange ce qu'elle veut, elle ne fait pas son Shabbat comme elle veut, elle mange du porc à Kippour, la brioche c'est bon, très bien, toi tu es content, je suis content. Elle est contente que je parle à la synagogue, que je reviens épanoui, je suis content qu'elle ait mangé sa côte de porc à Yom Kippour, je reviens épanoui. Et chacun, le vrai problème est, et c'est vrai que c'est un petit problème, c'est dans l'éducation des enfants. C'est vrai. Mon gosse, je ne veux pas qu'il voit un exemple d'une mère qui mange une côte de porc à Kippour. La réponse, elle est que ça lui fera beaucoup moins de mal à l'enfant de voir un père tolérant avec sa femme plutôt que les bagarres que ça peut engendrer. Ça lui influencerait, c'est vrai. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Divorce. C'est mieux? Non. Certainement pas. Le seul cas qui peut légitimer divorce, c'est les choses qu'on fait en commun, c'est-à-dire la mitzvatona, la femme et la pureté familiale. Si la femme dit, je ne veux pas aller au mikvé, oublie-moi pour ça, je vais dire, ok, ben, allons à la rabbanoute. Ça... Difficile. C'est pas facile. Aujourd'hui, on dirait que divorce pour un oui, pour un non. Non, c'est pas... C'est ta femme, des enfants ensemble. C'est pas aussi facile. Sauf pour une question de religion, tu comprends. Sauf. Ok.
Ce que je t'avais dit, c'est très bien, mais c'est pas bien. Ils vont jamais rien partager ensemble.
Ils doivent être capables de...
Au week-end Shabbat, lui, il doit rester à la maison parce que...
Ok, alors, il doit être suffisamment. Je pense qu'un couple de gens intelligents et tolérants peut avoir une vie commune de communication sur d'autres sujets que se chamailler sur la Torah. Regarde, prends un avraire et rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il raconte à sa femme? Lui, il a fait la sougia, dans quelle sougia m'attend le matin? Ktouba, là-bas, la Ktouba... Helka, d'accord. Je ne vais pas lui raconter ça. Pourquoi tu me parles maintenant d'un truc pareil, que tu meurs ou que tu me divorces? Ce qui prend la Ktouba, je ne comprends pas où est le rapport. D'accord. Je vais parler de quoi? De Elou Alokin, pour quel cas on reçoit les coups? De quoi tu vas lui parler? Donc forcément, bien que ta vie est dans Torah, votre niveau de discussion, il est sur autre chose. On peut trouver, on doit trouver. On doit trouver, c'est la mitzvah d'amour du couple, on doit trouver des sujets sur lesquels on est, oui, en communication. Rav Chaim Kanievski, vous racontez l'histoire que m'a raconté le Rav Chazan. Une fois qu'il s'est marié, sa mère, donc la femme du Stipler, qui était la sœur du Chazonish, vient chez son mari. Le Stipler dit, je m'inquiète pour mon autre petit Chaim, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il fait un peu de bitoul Torah, c'est une chose que j'ai jamais vue. Tous les jours, il vient du collège, il vient chez nous à la maison, il prend le journal, pendant un quart d'heure, il lit le journal, avant d'entrer à la maison. Et jamais il faisait ça avant. C'est impérativement. Chaim, je sais que c'est un garçon sérieux, on va lui demander. Il dit, ouais, je rentre à la maison, moi je suis dans mes histoires de Torah profonde, je ne parle pas avec ma femme, ce n'est pas le sujet qui l'intéresse. Alors je prends le journal, je lis, il y a là-bas, il y a un article à la fin du journal, des choses sur le monde, d'accord, les rhinocéros zébrés d'Australie, d'accord, je lis l'article comme ça j'ai de quoi lui parler à table. Bon, ça c'est le niveau de Reb Chaim qui doit faire ça de façon artificielle. Nous, que notre tête, elle est tellement pas dans la Torah, d'accord, c'est pas dur pour nous d'avoir une sphère commune de communication avec sa femme, sans devoir aller lire le journal, trouver un sujet de quoi on parle. Ça, dans le Shidouchim, oui. D'accord, quand on va au Shidour, il faut préparer 10 reprises. On parle d'un sujet, tac tout coup, il y a un silence. Angoissant pour les deux, on regarde les papillons voler. Il faut une reprise, ça se prépare à l'avance, d'accord. Et si ça arrive, c'est pas la fin des récours, tout le monde sait que ça arrive, et puis c'est même sympa, d'accord. Pour revenir donc au niveau du couple, si on est ouvert, et on doit être ouvert, on doit être tolérant, je souhaite à personne, parce que je dis, a priori, si on ne s'entend pas sur les goûts et les couleurs, on peut s'écraser. Sur la Torah, c'est très difficile. A posteriori, qu'on est déjà marié et il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, et vraiment, chacun veut deux mondes séparés, ok, alors on s'arrête et terminé, point barre. Il y a des enfants. C'est très dur pour moi de dire divorcer pour une question de religion. D'accord, je ne sais pas si les rabbins diraient une chose pareille. Pour les enfants. À nous d'essayer de montrer à nos enfants la bonne direction et surtout montrer une ouverture. Et je pense que si un des deux n'est pas religieux et l'autre sait bien se comporter, à la fin l'autre craquera bien dans ta chaîne. Il tombera et, un ou l'inverse. Regarde, on a l'avantage qu'on a la vérité. La vérité, elle est censée parler. Si le type, il sait comment la présenter, il sait être tolérant, il sait être gentil. Et... Bon, j'espère. Sinon, ben non, comme tu dis. Ouais. Attendez, c'était Chahi, le pauvre, qui attend depuis longtemps. Oui. Non, non, les deux doivent s'écraser. Les deux doivent s'écraser. Oui, les deux doivent s'écraser, mais plus l'homme. Les deux doivent s'écraser, mais plus l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus portée par les sentiments que l'homme. L'homme, il est aussi porté par les sentiments, mais là, il est censé être plus raisonnable. La femme, bien qu'elle est raisonnable aussi, mais de façon naturelle, elle est moins. C'est pour ça que la femme compte beaucoup sur l'homme, parce qu'elle sait que l'homme, il arrive à faire une nuance, une distinction claire entre les sentiments, il est censé faire une distinction claire entre les sentiments et la raison. Donc nous qui pouvons être plus raisonnables, on est censé montrer l'exemple, en tout cas, du type qui reste raisonnable et qui... s'écrase. C'est-à-dire quoi s'écraser? Ça veut dire que tout ce qu'elle dit, j'accepte. Je ne veux pas dire cela. Non. J'ai dit, sur le coup, j'accepte. Ça veut dire, quand ça me fait mal, et c'est... Là, je dis rien. Jusqu'au point ultime du non-retour. D'accord? Quand le but, il arrive à changer l'autre. Pourquoi l'autre ne change pas? Il est extrêmement rare, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, sur Terre, des gens qui sont foncièrement mauvais. Tout le monde veut être bien. Tout le monde veut être bien. Maintenant, lui, il n'arrive pas à comprendre en quoi il te fait du mal. Et quand toi, tu réagis négativement, il le prend très mal. Il ne comprend pas. C'est toi qui ne me comprends pas. Donc les deux sont en train de se plaindre que l'autre ne le comprend pas, et les deux hurlent en se faisant beaucoup de mal. Alors, le problème, il est, arriver à faire comprendre que l'autre, que ce qu'il me fait du mal. D'abord, il faut qu'il soit conscient. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, non. Il y a Rouven, il y a le mari et la femme, d'accord? On va dire, le mari, il a fait une chose qui déplaît à la femme. Et très souvent, les maris, surtout les nouveaux, ceux qui n'ont pas reçu de formation et qui ont peu de flair, ils mettent les pieds dans le plat, sans cesse. Et la femme, sa réaction est de même pas, elle réagit, elle veut même pas lui dire ce qui ne va pas. C'est tellement gros ce qu'il a fait, elle n'a pas à lui le dire, il doit comprendre tout seul. Lui, ça met encore plus hors de lui. Ok, j'ai gaffé, je reconnais. Dis-moi au moins quoi? Aide-moi. Non! Trouve tout seul. Hein? C'est la femme. C'est mon cher ami, c'est comme ça. Hein? On ne discute pas. c'est la donnée. On n'a pas beaucoup la terre est ronde. Comme ça, Dieu a créé la terre ronde, point. Dieu a créé la femme, femme. Hein, rien à faire. Tous les maris, tu diront, c'est la même chose. D'accord? Parce qu'elle a une fierté. Elle a été touchée. Donc si elle te dit maintenant, tu as fait ça et ça et ça, quelque part, ça la met hors d'elle qu'elle doit t'expliquer ça. Tu n'es même pas venu de comprendre ce qu'il y a. C'est comme ça. après beaucoup de travail et d'humilité, de communication dans le couple, elle sera capable de le dire sans aucun problème. Mais ça vient comment? C'est le travail que je suis en train d'expliquer. Comment ça a lieu? Sur le moment, quand il y a la pression où l'autre m'a touché et j'ai envie de réaction, je dois en aucun cas réagir. Quand je dis s'écraser, ça veut dire ça. Là. À ce moment, je m'écrase. Quand l'orage est passé, ça veut dire que moi, je ne suis plus en colère du tout, ou je peux en parler à ma femme sans m'énerver, j'entoure du chocolat, j'allume des chandelles, je l'invite au restaurant, je ne sais pas, tout ce qu'il faut, on est en situation maintenant où tout va bien, où nous sommes en communication agréable, et je lui dis, chérie, tu sais, l'autre jour, il y a eu ça comme ça, je vais t'expliquer un peu mon point de vue, je comprends ton point de vue à toi, ça va, tu ne comprends rien, mais il faut avoir du tact, il faut être politique, hein. Parlez-moi d'expliquer mon point de vue avec le sourire, gentiment. Non. Il faut arriver. Alors, il faut dire, j'aimerais bien t'en parler, mais faisons un effort les deux. De pas, si on voit qu'on commence à s'énerver, on n'en parle pas, on en parlera une autre fois. On va en parler calmement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vois, tu répètes, elle ne comprend pas, et puis elle a cette position, ça peut commencer à. Mais fais attention justement à ce que. Là, c'est délicat. On frise la bagarre et ça vaut la peine de ne pas continuer. Ça vaut la peine, parce que un mot de plus, et on est reparti.
C'est impossible.
Non, c'est tout à fait possible. On doit être suffisamment grand dans la tête pour accepter que l'autre ne pense pas comme moi, et qu'il est tordu. Oui, il est tordu, ok. Regarde, c'est un exemple que je prends souvent. Quelqu'un qui est vraiment retardé, et tu lui expliques, il ne comprend pas. Ben, tu as des facultés de patience énormes. Un type qui est intelligent comme toi, tu l'expliques, il ne comprend pas, au bout de trois fois, tu pètes un câble. Donc le problème, il n'est pas que ça te dérange de répéter 30 fois une chose. Le problème, c'est que tu attends de lui un certain standing. Il faut simplement comprendre, non, le standing que tu attends de lui n'est pas le standing. Oui, mais moi, à sa place, j'aurais. Non, tu n'as pas à dire moi à ta place, parce que ce n'est pas à sa place. Toi, tu es toi, et elle est elle. Et c'est là la source de tous les problèmes. Moi, j'aurais jamais réagi comme ça. Quand quelqu'un s'énerve, que quelqu'un lui a fait une chose, ça provient toujours du fait que j'arrive pas à comprendre comment un type sensé, il fait un truc pareil. Ça me met hors de moi. Jamais j'aurais fait un truc pareil, mais dans le pire des mondes, d'accord? Le secret, c'est dire, je suis pas lui. Lui, il est tordu. C'est un vrai tordu. C'est un super tordu. C'est un handicapé moteur cérébral, autiste, six months down à la fois. D'accord? Ah, bon, bah ça va. Ça va. Si c'est comme ça, je comprends. Hein? Non, c'est une réalité. Ça veut dire, ce type-là, en face, il n'est pas moi. Je n'ai pas à lui exiger. Alors, il a un problème. Il ne comprend pas. La source du problème, c'est qu'il ne comprend pas que ce qu'il a fait maintenant n'est pas bien. La femme. C'est exactement la même chose. C'est pas que je dis qu'elle est retardée. C'est qu'elle, ou quand toi, tu es retardé. Ça, peu importe. Lorsqu'il y a un conflit, ça provient de quoi? Ça provient que la personne en face n'arrive pas à comprendre, à saisir ce qui me fait mal. Pour elle, c'est normal. Et pour moi, c'est pas concevable. D'accord? Elle veut aller maintenant chez sa mère, ça fait le troisième Shabbat de suite. Et toi, tu dis, non, je prends un Shabbat à la maison. Elle se met à pleurer. Tu détestes ma mère. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est une menteuse. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a, vu qu'elle a envie de voir sa mère? Sa mère lui manque toute la semaine. Elle est gentille avec toi, tu es un bon garçon. Qu'est-ce qu'on passe un Shabbat là-bas, en famille, où est le problème? Et toi, tu dis non. Et pourquoi? Tu dis, ça fait déjà deux fois, pas une troisième fois, mais pourquoi pas? On est très bien là-bas. Alors, les deux ont raison. Simplement, le point de vue, il y a une incompréhension. Chacun parle de son point de vue, il n'arrive pas à comprendre l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on ne s'énerve pas. On dit, on fera comme tu veux. Allez, tu t'écrases. D'accord? Non, c'est bien. Après, tu commences à expliquer. Écoute, je vais t'expliquer un peu mon point de vue. Et lentement, on a une communication où tu expliques ton point de vue. Elle ne va pas comprendre plus d'une fois. Jamais. Mais c'est comme l'éducation. L'éducation, c'est quoi? T'es un gosse. Un gosse, c'est un yetzerara. C'est un rocher tout à fait plein d'aspérité tordue. Et tu dois lentement aller, tac. Ne fais pas comme je t'ai déjà dit, de ne pas mettre les doigts dans ton nez. Dis merci, dis s'il te plaît, va à l'heure au lit. Qu'est-ce que c'est? Tu répètes 10 000 fois la même chose pour que ça commence à rentrer. Et ça rentre, mais au millimétrique. Le travail dans un couple, de changer l'autre, arriver à ce que nous soyons vraiment en union, en accord complet, c'est un travail millimétrique. Millimétrique. Toute la vie, toute la vie. Au bout d'un moment, les aspérités, il y a beaucoup moins. Ça arrive aussi, mais puis on a pris l'habitude de se parler quand ça ne va pas sur un mode intelligent, pas sur un mode un mode coléreux. C'est ça qui crée l'amour, c'est fantastique. Il y a de l'amour. Maintenant, vu qu'on s'aime qu'on est sensible l'un à l'autre, régler les problèmes qu'il y a. Et lorsque je vois que l'autre se comporte avec moi intelligent, qu'il est sensible, je comprends quand la femme comprend que tu ne la comprends pas, que malgré tout tu acceptes pour elle, et que tu es prêt à faire fi de tous tes sentiments qui te bouffent à l'intérieur, et qu'après tu en parles intelligemment, elle admire. C'est un monsieur. C'est un monsieur. La femme aussi, alors elle est censée faire ce travail, mais moins que l'homme, parce que elle... Hein? Elle aussi, elle a ce travail, c'est clair. Aussi, c'est certain, c'est certain qu'il y a un travail de midote à faire, c'est absolument clair. Les deux, on est là pour ça. Faire un travail de midote qui est commencer à laisser dans mon corps la place à l'autre. L'homme et la femme, les deux sont là pour se travailler à s'aimer. S'aimer égale quoi? Laisser créer dans mon corps une place où il y a l'autre. Autre, ça veut dire avec un grand A, quelqu'un de différent, quelqu'un qui l'a contre moi, quelqu'un qui n'est pas du tout comme je réfléchis. Et vu que je l'aime, je laisse maintenant, je me permets moi de m'écraser, de laisser une place dans lui, dans moi, comme elle veut. Mais ça, ça demande beaucoup de travail de ma part et aussi de communication à l'autre, qu'il doit comprendre comment je fonctionne aussi. Mais ça se fait par la tête. Alors, il y a un travail de communication à faire. La première année, il y a beaucoup de balagan, parce que on n'est pas habitué à communiquer et on est complètement différent, donc boum. Boum. Dans tous les couples, boum. C'est impossible autrement. Ceux qui ont été éduqués dans le monde orthodoxe, dans des bonnes familles, avec des bonnes méthodes de travail, ça va tout de suite très vite, bien. Très vite, bien. Parce qu'ils sont habitués à ça. Idéalement, dans le monde de la Torah, dès que le gosse il est petit, on l'éduque à être chesed, à écouter l'autre, à faire le bien autour de soi. Et il se marie dans l'optique, pas maintenant mon mari va tout donner tout ce que j'ai envie. Non, moi maintenant je suis là maintenant pour donner à mon mari. Et le mari, je suis là pour donner à ma femme. Donc quand on est créé, on est formaté déjà dès la naissance dans cette optique-là. Et en plus, on se marie dans cette optique-là, ça marche très vite, très bien.
Si moi je veux quelque chose et qu'elle, elle ne veut pas.
Oui.
Et je lui redemande et elle ne veut pas.
Oui.
Il y a un moment où je dois m'écraser ou c'est elle de s'écraser?
Ben, c'est le cas classique quotidien qu'il y a. Alors, je répète, sur place, tant que ce n'est pas contre la Torah, et même quand on peut accepter un contre la Torah, un bédiavad, c'est bien de s'écraser. Si tu peux facilement lui dire, écoute, non, puis elle accepte, ça va. Mais si tu vois que ça fait ça, y a un orage qui se prépare, ça ne sert à rien maintenant de créer l'orage. Mieux vaut s'écraser quand ce n'est pas des choses de Torah. Et après, agir par de la communication et lui dire que... Attends, l'homme aussi, il a des fois, il dit non très fort, et puis elle comprend que c'est l'orage qui va de son côté aussi. Il n'y en a que profite. Après, chaque fois, il devient un tyran, d'accord? Il crie, il devient menaçant. Mais c'est pas une solution, c'est pas...
Il y a un discours dans la préparation...
Je pense que c'est très important que le mari lui donne un feedback toujours positif. D'accord? J'étais invité chez un monsieur dernièrement, mais j'en revenais pas. Il a fait peut-être 30 compliments sur le repas à sa femme. Bon, moi j'en ai fait deux, c'est moi qui dois faire des compliments. Je l'ai invité, j'en ai fait deux, trois, ok, quatre. Lui, c'était ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, c'est bien, c'est fantastique. C'est important, parce que la femme, bon, on mange, c'est normal, d'accord. Elle dit, c'est bon, oui, c'est bon. Bon, voilà. Mais elle a passé une heure pour faire la popote, monsieur. Elle a acheté, elle a réfléchi, elle a cuisiné, elle a tout fait pour monsieur. Et monsieur, il mange, et voilà, il pense à autre chose. Il dit merci, il dit quelque chose.
Ça ne peut pas l'énerver, comment on se trouve.
En tout cas, si c'est vrai, si c'est dit authentiquement, c'est la plus belle chose qui existe. Bien sûr, il faut être hypocrite. Hypocrite signifie être gentil. Les gens appellent hypocrite ce que nous on appelle gentil. Hypocrite, c'est quand tu veux profiter de l'autre. Alors tu lui fais des flatteries pour lui retirer quelque chose. Maintenant, pour rendre quelqu'un heureux, aller dans son sens, ça s'appelle la gentillesse. La Gemara dit, quelqu'un qui a acheté une chose, il a fait déjà, il a acheté une bagnole, il a acheté une robe, d'accord? On le dit, que c'est une mauvaise. Et tu vois que c'est une mauvaise acquisition. Tu lui dis, c'est une mauvaise acquisition ou c'est une bonne acquisition? Tu lui dis, c'est une bonne acquisition. Bien sûr. Il a déjà acheté. Il ne peut pas rendre. Tu vas dire, parce qu'il se casse ta tête, le pauvre, il a mal. Quelle belle voix. C'est une Camelot qu'il a acheté. Quelle belle robe. Quelle belle voix. Extraordinaire. Ça s'appelle de la gentillesse. Alors tu peux dire, c'est très très beau tout ça. Et puis à l'occasion, tu crois que la prochaine fois que tu achètes la voiture, prends un conseil chez moi. Peut-être que je donnerai un petit conseil supplémentaire. Voilà. Mais pas le casser, le pauvre. Ah, tu me dis, c'est hypocrite. Non, c'est méchant. Les gens disent, il faut dire, c'est la vérité. La vérité égale mensonge. La vérité égale très souvent mal. Mal. C'est du mal. Les gens extrêmement francs qui disent toutes les 40 vérités à tout le monde, ce sont des assassins. Ils font beaucoup de mal autour d'eux. Beaucoup de mal. Des langues comme des vipères. Alors quoi, il faut être menteur? Non. Quand c'est pour profiter, c'est interdit de mentir. Quand c'est pour donner, oui, mens à fond. C'est une mitzvah. Alors, donc, Yirat Shamayim, bonne midot, et pour les Français tordus qui ont la tête farcie, on dirait aussi un plaisir de la regarder. Donc on est heureux, physiquement, elle nous plaît. Non, c'est pas normal du tout. Les grands rabbins d'Israël, qu'est-ce qu'il faut comme critère pour se marier? Ils disent midot, Yirat Shamayim. Physique, aucune importance. Et ils ont raison. Simplement, nous, qu'on est complètement tordus, hein? Oui, mais qui t'a dit que le chen, il passe par le physique, mon cher ami? Hein? Pas par le physique. Le chen, c'est quelque chose de humain. C'est une amitié. C'est pas... Non, mais tu peux aimer quelqu'un pour ses qualités d'âme. Il ne faut pas qu'elle soit repoussante. Le critère des rabbins, c'est d'accord, il ne faut pas qu'elle soit repoussante. Tu ne repousses pas, ça va. Mais les francophones, les occidentaux, une bonne partie d'Israël aujourd'hui, ils sont tellement tordus, parce qu'ils ont la tête farcie par les pubs, il faut qu'il y ait attirance physique aussi. Voilà.
Parce que là, Bensky qui a dit que quoi, si tu ne réfléchis pas, que tu te veux l'embrasser, alors tu te mets les matières.
Rav Steinman, il a dit, est-ce que tu peux l'embrasser? Quelqu'un qui me plaît. Attends, non, ce n'est pas physique du tout. Quelqu'un qui me plaît, au niveau de ses midotes. Quelqu'un qui me plaît, monsieur Retchamaim, et ça réveille chez moi des sentiments sans le côté physique. Quelqu'un peut tomber amoureux de quelqu'un par téléphone. Ça arrive. Par Internet, des gens tombent amoureux, sans voir la photo de la personne. D'accord? Une photo maquillée, qu'est-ce que j'en sais? D'accord? L'amour, ce n'est pas une fonction du physique. Le physique, ça rajoute. Maintenant, tant qu'elle ne repousse pas, donc vu que tu es attiré par ses bonnes midotes et par sa Retchamaim, tu peux l'embrasser. Tu ne peux pas l'embrasser sur laquelle elle repousse. Ça ne marche pas. Un très bon cœur, une belle Yirat Shamayim, mais ça ne passe pas. Bon, alors non. Attends, les Français et autres occidentaux à la tête farcie, il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Manasseh. Viendra Mashiach et... Bon, on verra, je ne sais pas ce que fera le Mashiach. Enfin, je ne sais pas, il devra faire quelque chose, une opération... Voilà.
Excusez-moi,
oui.
Au début du cours, quand on a parlé sur les critères, admettons que la femme, elle veut pas respecter Shabbat, ou elle veut pas respecter la Kashrout, ou elle veut pas respecter...
A priori, on se marie pas avec, c'est clair. A priori, il faut qu'on soit vraiment à la même longueur d'onde. Parce que comme je l'ai dit, s'il y a un décalage au niveau religieux, c'est très dur, parce que je suis prêt à m'écraser pour tout. Mais sur ça, je ne veux pas m'écraser, sur la Torah, c'est très difficile. A posteriori, on s'est marié, et tout à coup, elle a fait Tshuva, ou lui a fait Tshuva. Est-ce qu'il faut divorcer à cause de ça? Non.
D'accord, mais c'est pas Dieu qui décide le mariage si cette personne-là est compatible avec cette personne.
Dieu, il t'a proposé plusieurs options qui toutes sont ton mazal potentiel. T'as Miss Monde qui est bête comme ses pieds, et t'as Sarah Imeno qui est pas Miss Monde mais qui est Sarah Imeno, d'accord, et qui est pas repoussante mais elle est bien. Je te parle maintenant aujourd'hui, d'accord, qui est comme Sarah Imeno, d'accord. Maintenant, tu as le choix. C'est un exemple grossier, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut vouloir se marier avec une fille. D'accord. Il y a la frime. Que vont dire les copains quand ils vont la voir? Il y a le statut social qui est là. Il y a l'argent qu'elle peut amener. Il y a qu'elle est belle. Il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Certainement, ce sont des mauvaises raisons, c'est clair. Et si ces raisons rentrent dans le cadre d'un choix, c'est un mauvais choix qu'on a fait. Mais on a des options pareilles, ça arrive. Et Dieu t'a donné cette option. Et elle peut être ton mazal, ton mauvais mazal. C'est ton mazal, mais un mauvais mazal. T'as raté. T'as une autre. T'as, voilà, elle est très bien, tout ça. Voilà, quelqu'un m'a écrit, tout va très bien. Mais il a peur qu'elle est trop bien pour lui. Lui, il a peur de peut-être pas être au niveau. Bah, vas-y, mets-toi au niveau et avance. D'accord. Elle veut, elle est d'accord. Très bien. D'habitude, tout ce qui ne va pas dans la vie est là pour nous renforcer en Emouna. Dieu veut qu'on ait confiance en lui, qu'on pense. Et quand ça ne va pas, on lève les yeux vers le ciel. Et nous, pourquoi ça ne va pas? On prie à Dieu. On ne demande pas les épreuves. Mais quand l'épreuve, elle arrive, d'habitude, en gros, hein, la raison pour laquelle les choses ne vont pas comme ça va pas comme on veut dans la vie, les épreuves, c'est pour se renforcer en Emouna. Maintenant, plus profondément, la Gemara au début du traité Sota, elle dit qu'il y a que 40 jours avant la naissance, donc on dit Bat Ploni le Ploni, la fille d'un tel à un tel. Et un autre avis qui dit non, c'est d'après les masses, d'après tes sruyot, tes mérites, que tu auras un mazal. Alors décide, ou bien c'est décidé à l'avance, ou bien après mes mérites, et si j'ai un grand mérite, j'aurai une fille très bien, et si j'ai un mauvais mérite, j'aurai une fille pas bien, comme je viens de te dire. La Gemara dit, le cas où c'est fixé à l'avance, c'est Mazal Rishon, Zivug Rishon. Zivug Rishon, premier couple, on va dire, et si ça dépend de tes mérites, c'est deuxième couple. Le sens simple, c'est premier couple, c'est quelqu'un qui s'est marié, après il a divorcé, il se remarie, deuxième couple, d'accord? Mais le Shlah Kadosh vient et dit au nom de Rabbeinu Ari, rien à voir, on ne parle pas du tout de premier couple divorcé, on parle maintenant de Gilgoulim. Quelqu'un qui c'est son premier Gilgoul, alors Dieu lui fait trouver son mazal rapidement, il se marie, tac, première rencontre, deuxième, très rapide. L'autre, il a plusieurs Gilgoulim à réparer, pour beaucoup, et nous sommes tous dans ce cas-là, donc il ne faut pas vous, chacun, se regarder avec... D'accord. Chacun, on est tous des recalés, des recalés. Il n'y a plus de nouvelles âmes qui viennent sur Terre aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a que des Gilgoulim. Donc on est tous les recalés, des recalés. Et donc on doit ramer pour trouver notre Gilgoulim. Parce que les péchés qu'on a faits dans nos vies antérieures, c'est eux qui sont mes quatre guim qui accusent dans le ciel et nous empêchent d'arriver à notre. Voilà. Ça, c'est au niveau plus profond. Mais en gros, ça travaille de Mouna. En gros, Dieu, il fait ça pour qu'on se renforce en Emouna. Et voilà. Le but, c'est que je puisse donner le mieux de moi-même. Maintenant, il y a des gens qui me correspondent, où je pourrais mieux donner le mieux de moi-même. Absolument. Il y a une question là-bas.
Est-ce que c'est Stéphane, la fille de l'Église, va dire, qui va sur un tour avant, de vouloir la...
On déconseille. D'habitude, donc la question est, quelqu'un qui est, moi je suis plus au niveau de religieux qu'elle, et maintenant je marre avec elle, et je vais lui rapprocher, elle est prête à se rapprocher, et je vais travailler pour elle pour qu'elle se rapproche. D'abord, il se peut que sa motivation aujourd'hui, c'est toi. D'accord? Elle ne veut pas te perdre, donc elle te promet mon émerveil. Après le mariage, plus rien. C'est pas qu'elle ment, mais elle ne se rend pas compte, elle, la motivation qui est là. Elle dit oui, vraiment, elle dit oui, de façon sincère. Mais la motivation, on n'est pas suffisamment fin dans notre introspection intérieure pour savoir quelles sont les vraies motivations. Et c'est clair qu'une femme qui se rapproche, qui ne serait pas tellement rapprochée comme ça, puis elle a rencontré quelqu'un et commence à se rapprocher parce que nous sommes avec lui, c'est clair que bien que ça lui plaît beaucoup la Torah, il y a le mari derrière qui pousse. C'est clair. Même dans nos tchouva à nous, d'accord, aujourd'hui dans le monde de la tchouva, bien un tiers des tchouvas sont motivés par une fille. C'est clair. Alors c'est aussi du Shem Shamaï, mais il y a la fille qui pousse derrière. Maintenant, une fois qu'elle est mariée, elle est dans la poche. La motivation elle redescend. Ça, c'est un. Secondo, c'est pas certain qu'elle va monter comme tu le désires. Bien qu'elle veuille bien, mais chacun a son rythme, et puis après, vous restez en déséquilibre total. Des fois, elle monte très vite, elle redescend, et puis elle part en cacahuète aussi. C'est beaucoup plus sain de trouver quelqu'un qui est déjà stable dans la situation où elle est. Où les deux, on est au même niveau, on monte les deux ensemble. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus sain, beaucoup plus conseillé. Sinon, il y a un grand risque d'écueil, on déconseille. Une fille qui est venue me voir, j'étais dans un pays dernièrement, j'ai fait un cours sur le chidour, elle vient me voir, elle me dit, justement la question, voilà, j'ai quelqu'un, j'étais bien, je rencontrais quelqu'un, j'ai beaucoup baissé maintenant, lui il était très très loin, mais il est prêt à se rapprocher, mais bon, j'ai beaucoup baissé, et c'est pas facile. Alors je lui dis, vous étiez à mon cours ce matin, où j'ai parlé justement qu'il fallait faire attention, parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas, elle éclate en sanglots. Elle a très bien compris, quoi, je lui disais, a priori, c'est certain que c'est pas bien. Mais l'amoureuse, alors Elle sera amoureuse 1, 2, 3 ans, puis après, elle va comprendre qu'elle s'est plantée. Et voilà, c'est triste. À moins que lui, il fasse tout vraiment. Mais tu, l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, ok, c'est un piège, c'est un piège. Tu rentres, a priori, dans une situation où tu n'aurais pas dû être, parce que tu es aveuglé par des sentiments. Enlève les sentiments, va droit. Et je peux lui dire ça, et on s'en va. Oui.
Ça va trop à l'objectivité. Comment faire pour cet objectif d'un autre 10 cas?
Oui, on n'est pas totalement objectif, mais on limite la casse. Et Dieu sait qu'on ne peut pas être complètement objectif, donc Dieu nous aide. Soit tu fais ton travail bien d'analyse, d'enquête sur la fille que tu as en face. C'est normal que tu es attiré aussi, il y a des choses qui viennent. Ok, mais tu essaies le plus droit possible, le plus améti possible. Dieu t'aide, c'est clair. Baruch Adonai, l'homme en amène.